nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est une petite fille née en 1954, au trait fin et délicat et à la tenue toujours soignée. Joyeuse, inventive, indépendante et appliquée, Martine, l'héroïne créée pour les éditions Casterman, est aussi une star de dimension internationale. Les 60 albums retraçant ses aventures, à la ferme, en voyage, à la mer, se sont vendus à quelques 150 millions d'exemplaires dans le monde. Mais elle a aussi quelque chose d'un peu ringard, Martine, de surannée, voire de franchement rétrograde, qualités qui ont fait d'elle l'objet de délicieuses parodies. En 2003, pour Surpris par la nuit, Marie-Vonna Bolivier et Perrine Kervran ont proposé un portrait tout en nuances, dans un documentaire en forme d'éloge de ses lectures que l'on n'ose pas toujours avouer. C'est aussi un beau portrait de l'homme qui la dessina jusqu'à la fin de sa vie, Marcel Marlier, qui dit ici avec une belle candeur qu'au fond, Martine, c'est lui. Martine à la radio, un documentaire réalisé par Anne Fleury et diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 juin 2003.
Surpris par la nuit. Marie-Vonna Bolivier, Perrine Kervran.
Martine au poste. Martine dans le poste, oui.
Parce que Martine au poste, c'est pas son genre.
Non, c'est pas son genre. Hein. Enfin, maintenant, Sarkozy, on sait jamais. Martine à la radio.
Voilà.
Martine à la maison, 1963. La maman de Martine est sortie. Comme le temps paraît long, les poupées s'ennuient, Patapouf s'est endormi dans son panier, même les moineaux dans la cour ont l'air tristes quand maman n'est pas là. Qu'allons-nous faire ? Demande Jean, accoudé à la fenêtre. Eh bien, nous allons faire une surprise à maman, dit Martine. Tu as raison. Nettoyons la maison. Jean recule les chaises dans un coin. Martine met l'aspirateur en marche. En voilà du bruit, fait une poupée en ouvrant ses yeux de porcelaine. Que se passe-t-il ? Demande le canari. C'est Martine qui fait le ménage, répond Patapouf, engourdi de sommeil. Maintenant, Martine frotte le carrelage de la cuisine. Jean porte les seaux, les balais et les brosses. Il y a de l'eau partout. Patapouf marche dans le savon. « Tu vas tout salir, » dit Martine. « Assieds-toi sur le tabouret. » Patapouf n'aime pas rester en place quand tout le monde se dépêche. Ici, c'est la salle de jeu. Ah, en voilà du désordre. Freddy, l'ours en peluche, s'est endormi sur le cheval de bois. Commère, la marionnette, est assise à la fenêtre du guignol et les poupées s'amusent comme des folles au mariage de la girafe. Mettons tout cela bien en place. Tiens, Patapouf a trouvé quelque chose. C'est le petit canard qui sort de la boîte à surprise. Coucou, Patapouf. Et maintenant, demande Jean à Martine, maintenant, nous allons faire la lessive. Avec la lessiveuse de maman, c'est l'affaire de quelques minutes. Mettons à sécher le linge dans le jardin. Voici des épingles pour l'attacher. Il y a du vent. Cela n'est pas facile. Veux-tu cirer les chaussures avec moi ? Je veux bien, dit Jean. Donne-moi la boîte à cirage et les brosses. Prends les bottes de papa, moi je vais frotter les chaussures de maman. Jean a du cirage sur le front. Patapouf a mis les bottillons de Martine. N'est-ce pas qu'ils sont drôles, tous les deux ? Si l'on préparait le dîner, Jean est occupé à lire le livre de cuisine. Martine a sorti les casseroles du buffet. Il ne manque rien, la râpe à légumes, le fouet pour battre les œufs en neige, le moulin à café électrique. Il se prépare quelque chose de bon, dit Patapouf en s'approchant de la table. Le potage est prêt, Martine est occupée à le goûter. Bien, il manque un peu de sel. Sur la cuisinière à gaz, la casserole à pression se met à chanter. Sentez-vous la bonne odeur de sauce qui emplit la maison quand Martine ouvre la porte du four. pourvu que Martine ne laisse pas brûler la viande. Ce serait bien dommage. C'est maman qui serait fâchée. Martine a remis les tiroirs en place dans l'armoire suspendue. Le jaune pour le sucre, le rouge pour le sel, le blanc pour la farine. Le dîner est prêt. Il ne reste plus qu'à dresser la table. Jean range les verres et Martine place les assiettes. Papa se mettra là, à côté de maman, et tu seras ici, en face de moi. Ce sera très bien. Martine pose les serviettes debout dans les verres, on dirait des petits chapeaux. Enfin, la maison est en ordre. Maman va bientôt rentrer, sans doute. Martine se peigne devant le miroir. « Nous avons oublié quelque chose, » dit Jean. « Il faut enlever le feuillet du calendrier. » Tu as raison, c'est jeudi aujourd'hui et c'est la fête de maman. Heureusement qu'on y pense. Vite, Martine et Jean vont cueillir des fleurs dans le jardin. Que choisir? Les marguerites sont jolies, dit Jean. Et les pois de senteur ont un parfum agréable. Mais les roses feraient bien mieux dans la maison. J'ai une idée. Nous allons cueillir des œillets. Maman les aime tellement. C'est ça, dépêchons-nous. Voilà maman qui arrive. Déjà Martine et Jean sont à la porte. « Maman, nous avons rangé toute la maison. On a cueilli des œillets pour ta fête. Comme vous êtes gentille. » La maman de Martine embrasse ses petits-enfants. Pensez bien qu'elle n'oubliera jamais ce jour-là. Voilà pourquoi Martine et Jean sont toujours sages à la maison quand maman n'y est pas.
Aujourd'hui, c'est dimanche. Dans les bois, ils s'en vont tous les deux. Gentiment, sur sa joue, ils se penchent. Lui et elle, elle et lui sont heureux. Papa aime maman. Maman aime papa. Papa aime maman. Maman aime papa.
Je suis née en 61 et Martine, pour moi, eh ben c'est toute mon enfance. C'est vraiment toute mon époque. C'est même une époque qui n'existe même pas. Comme dans les Martines, ça n'existe pas. Et puis on a envie de rentrer dans le livre. Et puis c'est une petite fille qu'on rêverait d'être, qu'on ne sera jamais, bien évidemment. Elle est incroyablement belle. Elle a un teint merveilleux. On dirait une poupée qui vit. Par exemple, dans Martine, petite maman, j'avais une robe exactement pareille, une petite robe rouge avec un col blanc. Mais alors, de là à faire un ménage impeccable, des religieuses et un rôti bien cuit à ma mère à l'âge de 7 ans et demi, faut quand même pas rêver. En fait, c'est une grosse arnaque, Martine, parce que ça colle des idées parfaitement préconçues de perfection, de petite maman et de ménagère potentielle que, Dieu merci, on ne vient pas. Et puis c'est toujours magique, quoi. Où qu'elle aille, par exemple, Martine fait du théâtre, elle va dans son grenier, et dans les malles de son grenier, il y a des costumes absolument improbables qu'on adorerait avoir dans son grenier. Et en fait, quand on réclame à sa mère des costumes, elle nous sort trois vieux tabliers déchirés, alors qu'elle, c'est des costumes somptueux. Ou quand Martine en vacances, en camping, c'est idyllique, quoi. Elle est dans un coin sublime avec une petite rivière, des oiseaux. Il fait toujours beau. Les paysans d'à côté sont super sympas. Il y a des petits copains. Enfin, c'est incroyable. Et puis, il y a aussi cette histoire de parents qui ne sont jamais vraiment là. On se demande s'ils existent parce qu'ils sont rarement figurés. Et ils ont une présence très, très aimante. On sent aussi que c'est des parents qui doivent frôler la perfection, quoi. Et évidemment, c'est, nos propres parents sont pas comme ça. Et voilà. Et en même temps, c'est top ringard. Mais j'aime bien. D'ailleurs, je continue à les raconter à mes enfants qui se marrent bien. Ça leur plaît.
Prénom, Martine.
Née en 1954 à Tournai, en Belgique,
aux éditions Casterman.
Écrite par Gilbert Delahaye.
Dessinée par Marcel Marlier.
Chaque année, depuis 1954, on la retrouve dans une nouvelle aventure.
Martine,
Tini,
Anita,
Marika,
Debbie.
Elle est traduite dans 33 langues différentes et vendue à plus de 45 millions d'exemplaires dans le monde.
On fait souvent sa connaissance à l'occasion d'une appendicite, d'une varicelle ou d'une visite de famille.
Dans chaque album, cette héroïne à qui il n'arrive rien nous fait partager son quotidien.
Pourquoi ces histoires sans histoire ont-elles tant de succès ?
Faut-il prendre Martine au premier degré ou lui chercher un vice caché ?
Martine est-elle un monument à la gloire de la mièvrerie ?
Ou une petite fille parmi tant d'autres ?
Ou encore une cousine d'Amélie Poulain ?
Mais qui est donc Martine ? Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors naquit Martine.
Et vous êtes inspiré d'enfants que vous connaissiez pour Martine ?
Bien.
Marcel Marlier.
Quand j'étais petit, enfin quand j'avais 12-13 ans, il y avait dans la rue en face, là, un magasin d'alimentation. Et il y avait une petite fille que. Chaque fois, je regardais derrière les rideaux. Oh là, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Alors parfois, je venais là. Je lui demandais de venir poser. Alors elle était là, assise, toute droite. Et puis alors, quand je la questionnais, elle disait « Oui, oui ». Ça m'impressionnait. Parce que maintenant, les enfants disent « Ouais ». Et cette petite fille m'est restée dans la tête. Et puis voilà, c'est devenu Martine. Maintenant, elle s'appelait Françoise. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue ? Ils ont déménagé, évidemment, et parce que maintenant, elle doit avoir quel âge, là.
Et elle sait qu'elle est Martine ou...
Non, je ne sais pas, mais non.
Elle ne sait pas.
Mais non, hein. Non, parce que je n'ai jamais plus vu après, hein. Et puis peut-être qu'elle est moche, maintenant, je ne sais pas. Alors je serais peut-être déçu, mais je ne pense pas. Parce que la mère était belle aussi.
Belle, voilà. Redelijk, maar toch niet heel groot, toch niet zo groot als Martine.
Ik
heb geen grote uiter.
Marie Lalouette, bonjour. Vous êtes éditeur de fiction jeunesse. Vous êtes passée chez Gallimard, Casterman, Hachette Jeunesse. Aujourd'hui, vous êtes rédactrice en chef de revue de lecture. J'aime lire, mes premiers j'aime lire. Et des lires chez Bayard Press. Comment vous expliquez le succès de Martine ?
Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord la biographie de l'auteur. C'est un jeune homme qui est né en Belgique en 1930, donc avant la guerre, qui a 10 ans au moment de la guerre. La guerre en Belgique est quelque chose de très très violent. Il n'y a pas eu d'armistice en Belgique, ce qui donne des souvenirs extrêmement rudes. Donc toute la période de préadolescence et d'adolescence se déroule pendant la guerre. Donc étant né en 1930, il a 15 ans en 1945, et la paix commence. Je pense qu'il y a ça au départ dans l'histoire de Martine, ou dans la préhistoire de Martine, que je trouve être un exemple formidable d'une littérature de paix, de prospérité, de richesse. Il y a beaucoup d'opulence dans Martine. On a des belles voitures. Quand on voyage, on va en Amérique. On a une cousine au Canada. On a des fêtes assez fabuleuses. Ça me semble être une explication forte.
Et est-ce que ce décor dit quelque chose quand même d'une classe sociale ou d'une époque, ou est-ce qu'il est marqué au moins de certains...
Ah oui, oui, il est français moyen, il est petit bourgeois, alors il y a des décors qui sont un petit peu plus classiques que d'autres, il y en a qui sont un peu plus la paix, entre guillemets, c'est-à-dire un peu plus ringard, puis il y a des décors par moments un peu plus 50, je me souviens plus dans quel numéro, je crois que c'est Martine à la maison, je crois. Bon, là où il y a toute une architecture typique 50, avec toutes les textures des années 50, les formes de baies vitrées des années 50, le mobilier, les petites étagères, etc. quoi. Les pots de vache aussi au sol.
Stéphane Makedonski.
Bon, c'est... De temps en temps, on est dans un décor un petit peu plus classique. Donc, il y a un fauteuil un peu de type Louis XV. Mais c'est pas du Louis XV, c'est plus du Louis XV du Faubourg Saint-Antoine. C'est-à-dire c'est un Louis XV... qui est récent, quoi. Donc on est dans une classe sociale qui n'est pas non plus de la grande bourgeoisie, qui est un mélange entre Enghien-les-Bains, où ça peut être une bourgeoisie qui a un peu d'argent, qui a un peu hérité en tout cas, et des maisons plus récentes d'Île-de-France. Donc c'est un mélange de choses qui sont... Mais bon, on est de toute façon toujours dans une dans une petite bourgeoisie, quoi.
Oui, donc ça, 63, celui-là. Oui, ça, je me souviens bien avec l'aspirateur. Ça, c'est l'époque ménagère. Hein. Et là, c'est curieux parce que c'est l'inverse. D'habitude, dans les albums illustrés, les femmes sont avec des seaux, des serpillières, des choses anciennes. Là, c'est le petit garçon qui a désuètes et la petite fille qui a la technologie.
Alors, il y a celui-là, Martine au parc.
Ah oui, là, changement de coiffure.
Elle évolue tout le temps, Martine. Mmh.
Mais elle grandit pas.
Non.
Les travaux d'aiguille. Oui, ce que j'avais remarqué dans Martine, c'était les petites culottes.
Et alors là, ça c'est le célèbre Martine petite maman.
Je pense qu'un des succès de Martine est lié au fait que, en fait, il y a peu d'albums avec des petites filles. Les petites filles sont rares dans les albums, puisque dans l'étude de 94, le personnage véritablement manquant, c'est le personnage de la petite fille.
Ouais.
Alors, ça fait partie de ces rares albums où on a une petite fille, personnage principal, ce qui doit faire l'attachement, à mon sens, de beaucoup d'adultes pour la série.
Aujourd'hui, comme il fait beau, Martine vient jouer au parc avec ses petits amis. « Bonjour, monsieur Julien, » dit-elle au gardien. « Bonjour, les enfants, amusez-vous bien, mais surtout, n'abîmez pas les fleurs. C'est promis, monsieur Julien. »
Ma fille aînée, quand elle avait un an et demi, deux ans, est tombée folle amoureuse de Martine, petite maman. Et c'était très très intéressant de voir à quel point ce livre a pris une importance essentielle, fonctionnait comme un doudou, une espèce de référence, le début de l'élaboration d'une identité. C'était la première fois qu'elle s'identifiait à un personnage. Ce qu'il y avait de bien, c'était que Martine avait la place de la mère. Chaque image, là, je le feuillette, et chaque image me rappelle son petit doigt qui passait du biberon, de la poudre, là, la poudre de lait, à la façon de tenir ce bébé, le landau d'un style tout à fait particulier, elle avait tout à fait autre chose, elle. Donc il y avait quelque chose d'à la fois anachronique, mais quelque chose d'éternel. Ce qui était éternel, c'était sans doute la fonction maternelle, vue d'une façon hyper classique, bien sûr, la maman idéale, celle qui reste à chaque moment de la journée auprès du petit, qui la réclame, et qui pourvoit à tout. Sans aucune inquiétude, parce qu'il y avait un moment, je me souviens d'un moment où elle était... Alors il y a des mots étranges hein, pour un enfant tout petit, en tout cas quand on lit ça à un enfant de 2-3 ans, le mot perplexe. Martine est perplexe. Comment va-t-elle habiller bébé? Si maman était là, cela serait plus simple. Ça ne fait rien, Martine saura bien se tirer l'affaire. Donc c'était à la fois quelque chose d'étonnant, peut-être de difficile, mais qui se résolvait sans grand questionnement, quoi. Enfin, ça allait.
Et Patapouf, c'était un chien que vous aviez ou c'est un chien que vous avez imaginé?
Donc j'avais 22, 23 ans, j'étais professeur de dessin, et donc à Tournai. Et donc, il fallait que le midi, que je dîne quelque part, je prenais des tartines, donc, et le long de l'Escaut, là, j'ai vu un café où il y a une petite fille, habillée en jaune, qui dansait à la corde. Ah ben, j'ai dit, c'est là que je vais manger tous les jours. Je suis entré là, et il y avait un chien, un basset. Et c'est ce basset, j'ai fait une série de croquis, de ce petit chien pour bien l'étudier. Et donc j'ai bien regardé ce chien, et puis après, je n'ai jamais pu revu ce chien après, mais ce patapouf, donc, pendant 50 ans, il a gesticulé dans tous les albums.
Sabine Maïda, vous êtes chef de la rubrique beauté au magazine 20 ans.
Oui.
Et dans dans la parution du mois de janvier, dans votre article, vous dites avoir rencontré Martine et qu'elle existe. Et pourquoi alors le choix de Martine pour cet article ?
Je pense qu'il y avait l'envie aussi de travailler sur un stylisme très, très années 50. Pour moi, alors c'est peut-être aussi parce que à l'époque où je lisais Martine, je regardais Ma sorcière bien-aimée, Cher oncle Bill, enfin ça faisait partie d'un tas de programmes télévisés ou de lectures, il y avait Caroline ou bon, des gens comme ça, qui étaient très connotés 50, 50, en tout cas dans ma tête et puis tout court, je crois. Donc voilà, ça m'arrange de la voir comme ça, je crois, de la voir très 50. J'aimais beaucoup Martine sur un plan esthétique déjà. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un univers comme ça coloré, mais en même temps très lisse. C'est quelque chose que je ressentais déjà, petite fille, avec une France un peu idéalisée, le clocher, la petite vallée verte, etc. La jolie Martine avec ses jolies petites robes, etc. Son petit chien, Patapouf. Ensuite, dans les aventures, c'est vrai que c'était l'anniversaire de Martine. Alors, tout se passait admirablement bien. Généralement, mes anniversaires étaient beaucoup moins réussis que les anniversaires de Martine. Martine, petit rat de l'opéra. Martine, petite maman. Je crois que c'est un numéro qui a dû faire date. Voilà, c'était un peu... Effectivement, à l'époque, je crois que le monde idéal... me plaisait bien, c'est quelque chose qui m'agacerait sûrement aujourd'hui, mais à l'époque c'était un petit peu comme ça, sans doute enfant qu'on a envie de voir le monde.
Martine, petite maman, 1968. Ce matin, tout est calme dans la maison de Martine. Papa et maman sont partis en voyage pour la journée. Bébé, Minet et Patapouf dorment encore. Le réveil sonne. Vite, Martine se lève, car elle doit remplacer maman et s'occuper d'Alain, le petit frère, qui ne va pas tarder à s'éveiller. Elle tire les rideaux, ouvre les volets. Aussitôt, le soleil entre dans la chambre. Dehors, le coq chante. Et le jardin sent bon. C'est une belle journée qui commence. Les rêves de la nuit s'envolent. Bébé ouvre les yeux. Il regarde le coucou qui sort de l'horloge en criant « Coucou, coucou ». Les canards sur le papier peint font semblant de se jeter dans la mare. Minet accourt dans l'escalier pour savoir si bébé a bien dormi. Quand Alain est tout à fait éveillé, Martine le prend dans ses bras. Bébé, ébloui par le soleil, se cache les yeux en faisant une grimace. « Bonjour, bonjour !» dit Martine en l'embrassant pour le rassurer. La journée de bébé commence par le bain. Attention que l'eau ne soit pas trop chaude. Baigner Alain n'est pas une petite affaire. Il tape dans l'eau avec son poing pour faire danser le poisson rouge. Et le canard en céléloïde. Il veut se mettre debout dans la baignoire, il s'éclabousse la figure et sort la langue. Prenons garde qu'il n'ait pas de savon dans les yeux. Bébé pleure et se met en colère. Martine connaît bien la raison de son impatience. C'est que l'heure du biberon est arrivée. Et quand bébé a faim, il ne faut pas le faire attendre. Aussi, Martine se dépêche de mettre chauffer l'eau dans la bouilloire. Ah, où est le lait en poudre ? Et du sucre. Le biberon est-il rincé? Voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à mesurer le lait, l'eau et le sucre. Maman a dit jusque-là dans le biberon. Avant de partir, maman a dit « S'il fait beau, tu pourras promener bébé au parc. » C'est une chance que le soleil soit de la partie. Martine sort la voiture de bébé. Elle met un oreiller rose et de jolis draps. Sont brodés trois lapins et des oiseaux de couleur. Pas de couverture, il fait trop chaud. Bébé ne serait pas à son aise. Ah, ne pas oublier l'ombrelle. Martine est fière de promener bébé dans la jolie voiture. Elle entre dans le parc. Aussitôt, ses amis viennent à sa rencontre. « C'est ton frère ?» demande Jacqueline en faisant un joli sourire. « Comment s'appelle-t-il ?» dit Françoise. Il s'appelle Alain. comme il est mignon. Quel âge a-t-il? Il a eu 13 mois, le 15 avril. L'après-midi s'achève, le grand air donne de l'appétit et bébé réclame sa panade. Martine assied Alain dans sa chaise, une chaise avec une tablette et un joli coussin. Elle apporte une cuillère et une assiette. Elle souffle sur la banane pour la refroidir. Une cuillère pour Minet, une cuillère pour le cheval à bascule, encore une pour le petit mouton. Surtout ne m'oubliez pas, sans le dire patapouf. Les étoiles s'allument dans le ciel. C'est l'heure de mettre couché bébé. Martine le déshabille. Le voilà en chemise de nuit, prêt pour aller dormir avec l'ours en pluche et le lapin aux longues oreilles. Minet se demande si vraiment l'ours en pluche n'empêchera pas bébé de dormir et si le lapin espiègle ne va pas courir toute la nuit dans la chambre. Il remue la queue simplement pour dire « Ah, demain on s'amusera bien. » « Fais de jolis rêves, » dit Martine à son petit frère. Sitôt dans son lit, bébé s'est endormi. Martine aime beaucoup son petit frère. Mais elle est contente que papa et maman rentrent tout à l'heure. Car bien sûr, ça n'est pas facile de s'occuper de bébé toute la journée.
Si je dois vous raconter depuis le début. Hein. Donc, quand j'étais petit, évidemment, je dessinais beaucoup. Et un peintre de Tourcoing m'avait remarqué. Et puis, on s'était pris d'amitié. Et tous les week-ends, on partait dessiner dans la campagne. Et puis, moi, c'était le grand bonheur. On partait à bicyclette. Au début, je me mettais derrière lui. Et on regardait le paysage, et je me disais, enfin, pourquoi? Pourquoi se mettre ici à rien? Je voyais bien, là, un village, avec une église, par exemple, ou une place de village, mais je voyais pas pourquoi. Il plantait ce cheval, et là, on appelait ça sur le motif, à cette époque-là. Et petit à petit, je voyais ce dessin devenait plein de poésie, et j'apercevais toute la poésie qu'il y avait dans le village. Et j'avais envie de vivre dans ce village. Il y avait une magie qui s'était opérée, puisqu'il n'y avait rien transformé. Mais là, je comprenais le travail du peintre, au fond. Et donc, après, comme je dessinais toujours, je suis entré à Saint-Luc de Tournai. Ça s'appelait les arts déco à cette époque-là. Les études duraient 7 ans. La première année était consacrée aux objets, la seconde année aux animaux, la troisième année c'était le visage, quatrième année le buste, hein, le plan américain là, et puis cinquième, sixième et septième année étaient consacrées à la composition, c'est-à-dire que là il fallait inventer et composer. Hein. J'étais tombé dans une classe de tous des mordus de dessin, et ça c'est une chance extraordinaire. Tous les week-ends on était chargé de dessiner des animaux, de façon à pouvoir les mémoriser, de faire des croquis. Hein. Donc tous les week-ends, j'étais par exemple dans une ferme pour dessiner des chevaux. C'était intéressant le cheval parce qu'il reprend toujours la même position. Hein. Donc on sait, on commence par faire une esquisse générale et puis on peut rectifier un peu à la fois. Et pour les faire de face, pour dessiner les chevaux de face, j'allais le long du canal des Tempuis, là, parce qu'il y avait des chevaux de halage encore. Et là, c'était plus facile pour aller à reculons, pour les dessiner. Parce que dans les labours, vous culbutez avec toutes les bosses là de terre, les mottes de terre. Donc moi, je m'étais spécialisé dans les chevaux, mais il y avait un Français qui lui, faisait des chèvres de façon fantastique. Des chèvres barbichues, là, magnifiques chèvres, Ah ben j'étais jaloux, je dis non, d'un chien, il faut aussi que je sache faire des chèvres comme lui. Et voilà, après, ça a été la troisième. Ah oui, donc, à partir de cette seconde année, une maison d'édition de livres scolaires cherchait un dessinateur. Et j'ai malheureusement gagné le concours.
Et pourquoi malheureusement ?
Eh bien, malheureusement parce que c'était trop tôt. J'aurais aimé pouvoir continuer à faire des gammes.
Et on vous a proposé très vite Martine après ces...
Ah bien voilà, on revient à Martine maintenant, hein, puisque c'est le sujet. Chez Casterman, ils sont venus me chercher pour faire des illustrations, réaliser des illustrations en noir et blanc, dans des livres un peu genre signe de piste, là, un peu dans ce genre-là. Et puis, ils ont constitué la collection Farandole. Alors là, j'ai fait Deux lapins tout pareils. C'était un titre de Jeanne Cap, Deux lapins tout pareils. Et puis, à un certain moment, j'ai reçu un texte, Martine. Pour moi, c'était un titre comme un autre. Donc, j'ai fait Martine à la ferme. Mais pour moi, c'était toujours... Je ne pensais pas que ça allait faire l'objet d'une série. Je crois que c'est au troisième Martine que j'ai rencontré M. Delahaye. Oui. Et puis, on s'est toujours bien entendu, vraiment, vraiment, en merveille. On avait des parties rigolades, d'ailleurs. Hein, c'était...
Et du coup, vous vous revendiquez quoi, dessinateur ou illustrateur? Alors, c'est quoi la différence?
Illustrateur, hein, de toute façon. Bah oui, un illustrateur, c'est, de toute façon, il est dessinateur, sinon il ne sait pas illustrer. Si? Ce n'est peut-être pas... Non, il faut peut-être faire une distinction entre illustrateur et peintre. L'illustrateur, automatiquement, il est anecdotique. Hein, il raconte une histoire. Si une peinture est anecdotique, elle devient pompier.
Et est-ce que vous pensez que Martine a des vertus pédagogiques? Qu'est-ce qu'elle apporte aux enfants, cette Martine?
Je ne me pose pas tous ces problèmes. Je dis que c'est une petite fille de bonne volonté. Voilà, je crois qu'on peut la résumer comme ça. Elle essaie de bien faire. Je sais pas, il y en a qui disent, oui, mais pourquoi vous faites pas Martine dans les parents divorcent, Martine dans ceci. Moi aussi, vous savez, on est mariés depuis... On fêtait nous combien ici, nos... vous voyez, j'ai pas envie de faire Martine. On n'a jamais eu de conflit de génération avec nos enfants non plus. Nos enfants sont de bonne volonté, c'est-à-dire que quand, si quelque chose, s'ils ne réalisaient des choses mauvaises, on leur expliquait pourquoi, et quand c'était bien expliqué, bien clair, et bien voilà, ils réagissaient sainement. Elle est de bonne volonté, elle essaie de bien faire. Maintenant, elle fait des gaffes. Je sais qu'il y a, par exemple, un album où elle vole une poupée. Elle a tellement envie de cette poupée. C'est donc Martine, le cadeau d'anniversaire, où elle essaie de voler la poupée. Là. Mais après, elle rend cette poupée. Elle en a gros sur la patate, comme on dit. Elle essaie de rectifier. C'est ça, Martine. Disons que j'étais comme ça aussi, quoi. Quand j'étais... En primaire, j'avais première place. J'essayais toujours de bien faire. Je fais comme ça.
Martine à l'école 1957. Lundi.
Alors ici, vous avez un peu la façon de réaliser l'album, c'est-à-dire ce sont les esquisses préparatoires. Quoi. Je réalise ça sur des feuilles transparentes,
oui.
De façon à pouvoir dessiner d'un côté, puis retourner la feuille. Au départ, je ne sais pas encore l'endroit où va se trouver le dessin. Hein? Mais je suis obligé de le retourner parce qu'il est difficile d'être juste parti. D'accord. Je viens de le faire, je ne vois pas bien s'il est bon, si ça correspond à ce que j'ai dans la tête. Mais en retournant le dessin, c'est comme si j'avais mis, au fond, placé le dessin dans un tiroir, et comme si je l'avais repris 8 jours après. Quoi. Hein? Donc je vois tout de suite s'il y a des défauts, hein? et le choc que ça peut faire. Parce que parfois, je pense que le dessin va faire un choc, je retourne, il est mort, il est terne. Et le papier plus teinté me permet de mettre du blanc et déjà de placer la lumière. Donc je vois mieux l'ambiance. Hein?
D'accord. Hein?
Mais un album de 19 dessins me demande peut-être 500 dessins comme ça, parce que chaque moment, chaque situation est réalisée de 10 façons différentes. Vous voyez ? Ça, ce sont les tout premiers, hein, ici, hein, Martin à l'école. Et voilà ici le second Martin à l'école. C'est-à-dire que les techniques ont complètement changé. Au départ, Martine à l'école, les petites filles faisaient du tricot, écrivaient avec des craies d'ardoise. Alors que maintenant, elles travaillent en collaboration un peu, elles sont plus libres, oui, c'est tout à fait différent comme hein, par groupe. Enfin, du moins en Belgique, elles travaillent par groupe. Hein.
Oui. Mais il y a aussi la technique de votre dessin qui a changé.
La technique, là, c'était la technique, c'était de la gouache. Hein. Ah. Et ici, ce sont des encres. D'accord. L'encre est plus lumineuse que la gouache.
Vous trouvez ?
Oui, voilà,
je trouve le contraire, moi.
Oui, vous trouvez ?
Oui, oui. Mais je trouve que les couleurs avec la technique de la gouache, plus acidulé, c'est plus fondu avec l'encre. Oui.
Je sais pas, il faudrait. On va voir un peu d'autres dessins.
Mardi.
Voilà, ici c'est donc un mercredi pas comme les autres.
À l'école, oui, Martine a son porte-manteau et son pupitre. Sur le mur, il y a un tableau noir et une boîte de craie. Martine écrit une addition au tableau. 3 plus 2 égale 5, dit Martine. Pourvu qu'elle ne se trompe pas, pense Marie-Claire. Toute la classe écoute la leçon de Martine.
Je reprends. Le côté amusant, c'est, ce sont les esquisses. Parce que là, on n'a besoin de rien. Hein, on est devant la table, on a le texte, et puis du papier pelure, un crayon, un peu de blanc. Et puis on peut imaginer tous les mondes, hein. Puis avec un peu de gouache après, vous savez, on peut... Voilà, si je veux par exemple rajouter ici un arbre, et voilà, à la gouache, hein, je réalise. Mais ensuite, quand il faut réaliser à l'encre, c'est très fastidieux.
Il faut le faire des fois.
Ah non, je ne saurais pas. Parce que... Par exemple, en BD, il y a moyen, parce qu'en BD, imaginons Martine, elle a une robe rose, eh bien, cette robe est sertie par un trait, on demande à quelqu'un, voilà, tu remplis partout où se trouve la robe, tu mets du rose. Hein. Mais ici, tout est en modelé, vous voyez, les plis, il y a des clairs, il y a des ombres, c'est déjà difficile, moi, à le réaliser, alors je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre. Hein. Mais voilà, prenons ce dessin-ci. Il est donc dessiné. L'encre est transparente. Hein? Donc je dois faire des réserves. Vous voyez ici, les feuilles sont claires. Donc je dois ici, avec de la gomme, c'est-à-dire une espèce de latex qui est liquide, qu'on place dessus, ça se place comme si c'était une couleur, hein? Ça sèche après quelques secondes, et c'est une réserve. Je peux alors, vous voyez ici les feuilles, je les dessine avec cette gomme, les roses ici sont très claires. Sur un fond foncé, donc je dois les réserver. Je dois réserver la petite fille, voilà. Je dois réserver ici la petite barrière. Je dois réserver les vaches, qui sont blanches, qui sont claires. Voilà. Ensuite, je travaille dans les foncés, je fais le feuillage. Je peux traverser Martine. Parce que si je ne faisais pas ça, avec ma couleur foncée, quand j'arrive tout près de la robe... Je vais enlever le pinceau, il y aura une tache, là. Il y aura une tache foncée. Hein. Ensuite, j'enlève la pellicule pour Martine. Là. Bon, Martine est toute blanche maintenant. C'est comme une petite chemise là, que j'ai enlevée. Hein. Mais je ne peux pas encore la dessiner. Je dois mettre maintenant de la réserve pour le chapeau. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais...
Et à la gouache, hein, c'était pareil, il y avait autant d'étapes.
Non, parce qu'à la gouache, je me dis par exemple, je suis dans une forêt... le fond de la forêt est vert, un vert bleu, mettons un vert bleu parce que c'est le matin, il y aura de la brume, etc. Je mets le fond, je dis tiens, ici je vais mettre une branche qui traverse, et voilà, à gouache, boop. Là je vais rajouter un oiseau. Et je peux rajouter, je peux transformer, je peux.
Ça se couvre à l'infini. Ah ben
oui, hein, ça se couvre à l'infini. Voilà, ici vous avez Martine. Fait de la petite rade de l'opéra. Là, nous avions été, c'était à Bruxelles, à la Monnaie. C'était Béjart qui était à cette époque-là à la Monnaie. Hein. Et nous avons assisté pendant 15 jours là au cours de danse.
Oui, j'ai livres.
C'était Madame Dolores Laga qui était professeure et qui était étoile des ballets
Beaux-Arts. Celui-là.
C'est lequel ton Martine préféré?
Martine va à la danse.
Pourquoi?
Parce que je fais de la danse. Elle va à la danse et il y a son petit chat patapouf qui rentre dans la danse et il fait comme Martine. Et j'ai oublié la fin.
On adorait déjà le dessin de Martine il y a 25 ans parce qu'on trouvait que ce type mettait une passion dans cet hyper-réalisme. Enfin, je dirais même pas un hyper-réalisme, il y a un onirisme comme ça. Je sais pas moi, il arrive à faire des fonds qui sont encore plus précis que les avant-plans. Je vous cacherai pas que je préférais les anciennes impressions.
Moi aussi.
Je sais pas, il y avait un côté doré, il y avait un côté du contraste, etc. que je préférais. C'est un dessin bien fait. Mais pas plus, hein. Je veux dire, c'est pas Autodix, hein, non plus, c'est pas Francis Bacon. Et je trouve que Francis Bacon change le cours de l'histoire de la peinture, Van Gogh aussi, mais si Martine ne change pas, c'est pas grave, il y a autre chose dedans qui peut proposer du plaisir et de la passion et de la tendresse et de la couleur, ben c'est déjà pas mal.
Bruno Bellevaux.
Mais c'est vrai que moi je regrette souvent les expressions des personnages et je trouve que si on devait lui trouver par exemple des défauts, c'est que Marcel Marlier dessine assez mal les visages par exemple. Ça, moi je suis assez d'accord là-dessus.
Ils se ressemblent tous.
Ils se ressemblent tous, ils font tous bébé celluloïde. À dire vrai, il dessine mieux les petits derrière que les visages quand même. Bah, déjà ça suffirait à le rendre sympathique.
Tu vois ? Il fait d'abord au crayon. Puis il fait comme ça. Et puis il dessine.
Attends, je vais regarder tous les livres.
Alors là, c'est Martine Babysitter, avec les petites jumelles qui lui font des blagues, évidemment. C'était amusant de faire toutes les petites mimiques des gosses.
Tu vois la différence de dessin? Viens voir.
Et vous croyez qu'elle existe, Martine?
Ici. Regarde la différence de dessin comparé à celui-là.
Je ne me suis pas posé la question, mais je sais, par exemple, quand Marcel m'en parle, tout se dilue, tout se déconstruit, parce que lui, il l'a chaque fois vécu chez lui. Donc, chaque fois, il regarde ses enfants, puis il a regardé ses petits-enfants, puis il a regardé des neveux, et il me dit, tu sais, ma petite nièce revient du Québec, c'était un des derniers, la surprise, ou je ne sais plus, et il me dit, on lui a retapé un petit cheval à bascule qui était au grenier, alors il me le montre, il me dit, on a fait ça, j'ai remis des poignets là, mais tout à coup, ça devient plus du tout magique, parce que j'aime tellement comme c'est dessiné, que quand je l'imagine lui en train de mettre une vis ou un clou, ça ne paraît plus magique. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a l'art de véritablement embellir tout ce que son crayon touche.
Vendredi. Tout le monde est de retour à l'école. Martine écrit sur son cahier. Écrire est amusant, mais il faut faire bien attention. Il s'agit de ne pas dépasser la ligne rouge et de mettre un point sur le i. Le cahier de Martine a 50 pages. Il est plus gros que celui de Marie-Claire. Sur la couverture, Martine a écrit son nom. Ainsi, tous les élèves reconnaissent le cahier de Martine.
Je ne sais pas dans quel sens il faut... On vient de là, oui. Là, c'est la couverture du prochain album. Martine et l'Arche de Noé.
Celui que vous faites dans le parc de Bruno Bellevaux, oui. C'est
voilà,
ça.
Voilà, alors là, vous voyez, ça, c'est la cascade de Cheftogne. Alors, elle repêche ici un ours. Alors, comme j'aime pas beaucoup cette réalisation, le réaliser, je fais toujours ça à la fin. Et chaque année, chaque fois, je me dis, je ne vais plus me laisser prendre. Je vais commencer beaucoup plus tôt maintenant à réaliser au net. Et ici, c'est déjà mal parti. Je regarde ma femme, là. C'est déjà mal parti. Je suis encore toujours occupé à faire le plaisir. Le plaisir, c'est-à-dire les esquisses. Parce que le plaisir, c'est déjà fait, on a déjà la scène. Hein? Et puis, bien souvent, elle est plus frappante, plus clair dans le projet que dans la réalisation. Parce que souvent, ça s'affadit un peu. On me dit, par exemple, oui, mais vous n'avez pas marre, tout sauf faire Martine. Mais l'intéressant, c'est que je peux la mettre dans n'importe quel monde. Hein. Je peux, par exemple, faire Martine à Paris. Je peux faire, bon, alors je vais découvrir Paris. Là, comme je ne connais pas bien Paris, ça me fait un peu peur, mais... faudrait que ce soit bien documenté. Pourquoi changer, puisque j'ai toute la liberté. Il n'y a que les yeux que je ne peux pas changer, je ne peux pas mettre une autre couleur. Hein. Quand j'ai fini un album, j'aime bien de faire n'importe quoi, de la menuiserie, de l'électricité. Mais après 2-3 semaines, je commence à transpirer, je suis mal à l'aise. J'ai pris un mauvais pli, et je dois redessiner. Et
regarde,
là, il y a mal parti, quoi.
Vous êtes dépendant, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est un toc, comme on dit maintenant.
L'accident.
1954. Martine en voyage. 1956. Martine à la mer.
Qui a sur le dessin
Martine au cirque. 1957.
Ah mais non.
Martine à la
et ça se tente.
1956. Martine à la foire. Martine fait
le ménage n'est pas fait.
Ouais. 1959.
C'est quand même formidable.
À la montagne.
Et si j'allais en faire
1960.
Vous êtes là comme
Martine
des mottes de terre.
Je vais aller moi. 1961.
Martine
en je vais aller jouer avec
1962.
Les chats, ils s'en font pas.
Et les 4 saisons.
Prochain cadeau.
1963.
Il faut encore que je me tape tout ça.
À la maison. Martine
avec ma sciatique et ma sinusite.
1964. Martine fait ses courses.
La vaisselle.
1965. Martine
c'est quand même
en
pas
avion.
Difficile.
On est
Martine
plus chez
monte
soi.
À cheval.
La dernière fois, c'était
1967.
J'aime bien les plantes,
Martine au parc.
D'ailleurs, Annette l'avait remarqué.
Et cette
Martine,
rose qui se
petite
permet
maman.
De pousser en plein milieu
1969.
De la cour. Elle est discrète,
Martine,
mais il ne faut pas pousser.
Son âme,
je vous en prie, ne vous gênez
1970.
Pas.
Même pas un petit peu.
Martine embellit.
Alors, Sylvie Cromer, vous êtes sociologue et membre de l'Association européenne du côté des filles.
Ah, je ne suis plus membre du côté des filles. J'ai fondé avec Adéla Turin l'Association européenne du côté des filles. Une caractéristique des albums, c'est qu'il y a très peu de repères géographiques ou historiques et qu'en gros, ça se déroule dans une classe moyenne. Alors, pour une raison très simple, c'est que le livre doit pouvoir se vendre partout, être traduit partout, etc. Et ça, c'est une évolution de l'album illustré par rapport au 19e siècle, où effectivement, il y avait une classe sociale très marquée, soit la bourgeoisie, soit les milieux pauvres. Alors que là, on a des livres, Martine en est l'exemple, qui se déroulent dans une classe moyenne, sans lieu précis. Ça pourrait être à la campagne ou à la ville. On n'a pas de, même plutôt, c'est même plutôt un milieu rural. Alors
ouais,
qu'on
plutôt.
Est dans un monde urbanisé, on est plutôt dans une France rurale. Donc des livres qui se déroulent dans un cadre atemporel. N'oublions pas que les livres sont achetés par les parents. Il y a quelque chose pour eux sans doute de rassurant, de pouvoir donner à leurs enfants une vision du monde finalement qui ne bouge pas.
Ah voilà, parce qu'ici il y avait les polygones, parce que j'avais une petite dentelle à culotte de Martine. À cette époque-là, les enfants étaient très très courts, habillés très très courts. Hein. Alors moi j'avais trouvé ça amusant et tout ça. Mais alors on a dit que c'était un obsédé sexuel, histoire. C'est pour ça qu'on l'a mis ici, hein, en exergue.
Hein.
A...
Et ça vient de quel album?
C'est le premier, c'est Martine à la ferme. Elle est penchée, elle regarde les poules, hein. Les poules du poulailler. Et là d'ailleurs j'avais dessiné une poule bleue. Et alors monsieur Casterman disait, mais les poules bleues, il n'y a pas de poules bleues, il faudra changer ça. Je crois qu'elle est restée bleue, la poule.
Ah oui, vous n'aviez pas le droit à la fantaisie, alors.
Ah non, il va falloir des lieux. J'avais pas beaucoup de droits.
Bruno Bellevaux, bonjour. Vous êtes auteur de scénario, auteur dramatique, gestionnaire du parc de Cheftogne, à côté de Namur.
Oui.
Et est-ce que vous êtes un lecteur de Martine?
Bah, je me souvenais plus l'avoir été, mais je l'avais été étant petit, oui, je l'avais été. Et puis je le suis redevenu avec mon fils, parce que j'ai un fils de 7 ans maintenant. Donc depuis 4 ans, je lis de temps en temps à Martine. Pas uniquement à Martine, mais de temps en temps à Martine. Oui, ça dépend de ce que la journée a donné. Moi, je vis avec une Kosovare, donc une fille qui a grandi là-bas. il y a 25 ans, nourrie essentiellement avec du fromage, des piments, et puis qui a grandi dans un village où il y avait un point d'eau, un puits, et puis une école, et puis des chemins non goudronnés. Et elle me disait qu'elle avait appris à lire dans Martine, donc c'est assez marrant quand même. Je veux dire, s'imaginer que, bon, Martine, je pense, a été traduit dans 37 langues différentes, donc, mais on n'imagine pas dans des pays aussi où il n'y avait pas un essor ou un développement culturel extraordinaire. Et alors je lui disais, mais est-ce que ça ne faisait pas penser à impérialiste? Donc est-ce que tu ne vivais pas ça dans ton village, au bout de l'Albanie, comme quelque chose de d'un bonheur matériel inaccessible? Est-ce qu'il n'y a pas une jalousie qui naissait chez toi? Et elle me disait, mais pas du tout. Plus on est pauvre, et plus on est dans la détresse et dans le besoin, et plus on a besoin d'un idéal de bonheur. On a besoin de se dire, allez, ce tunnel n'est qu'un moment d'existence, mais on en sortira. Et donc pour ça, on a besoin d'une lumière dans la nuit. Et Martine, c'est un peu ça, Martine, c'est tout se passe bien, quoi. Elle est heureuse, il n'y a pas de gros conflits. Donc, c'est vrai, moi j'ai eu une enfance assez difficile puisque je vivais dans un couple déchiré et je pense que Martine m'a donné les parents que je n'avais pas eu.
Elle comble les vides, Martine, en fait.
Enfin, vous connaissez mes frères, Lucas qui a fait la trilogie et oui. Rémi qui a fait cette arrivée près de chez vous. On a eu un père, on a eu une éducation très rigoriste. Donc chez nous, il trouvait un disque de Johnny Hallyday, il cassait mon père. Et on était obligés d'écouter Ferrat, Ferré, Brel et Barbara. On plaisantait pas avec la littérature à la maison ni avec la culture. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la première fois qu'on a pu utiliser 20 francs quand on a été grand, c'est de s'acheter un Johnny Hallyday ou un Michel Sardou, ce qui a longtemps fait rire de nous. Mais enfin, aujourd'hui, si on a dû combattre notre père et si on a dû le battre pour pouvoir écouter Johnny Hallyday, on va pas se laisser dicter aujourd'hui nos goûts esthétiques par certains. Je pense qu'on a gagné pour toujours et à jamais une indépendance intellectuelle et notamment celle d'Aimé Martine. En fait, j'étais vraisemblablement, j'essaie de me souvenir, mais j'ai 45 ans, j'ai dû être ce jeune enseignant qui a démoli Martine à une époque où, dans la lignée de la pensée de 68, il fallait qu'absolument la littérature dénonce, qu'elle déchiquette, qu'elle mette en pièces. Et forcément, elle n'a pas été dans le goût de la pensée de 68, où il fallait tous les jours manger un curé, attaquer un patron, le couper en morceaux. Et puis aujourd'hui, je ne pense plus. Je pense que la littérature peut être ça. Elle peut remettre en question. Elle peut aussi proposer un idéal de bonheur. Ça peut aussi être ça, la littérature, quoi. Hein.
Mais on lui reproche pas que son monde idéal. On va un peu plus loin. On l'accuse de racisme, de sexisme, de pédophilie.
Mais c'est les mêmes. Ceux qui l'accusent de ça sont exactement les mêmes qui ont accusé Hergé d'antisémitisme, Hergé de racisme, qui aujourd'hui le portent au nu et lui font une biographie tous les 6 mois. Enfin, je veux dire, des gens comme Marcel Marlier. Vous savez, on est une nation coloniale, nous, ici. À un moment donné, il y avait une pensée commune sur le Congo, sur la bonne parole qu'on apportait, les colons, les prêtres, le personnel médical et enseignant. Et à ce moment-là, c'était la bonne parole. Donc Marcel Marlier était inscrit là-dedans, comme tout un chacun du peuple belge. Et puis tout à coup, avec le recul de l'histoire, avec la raison que donnent les 30 ans de recul, on s'autorise à lui donner des leçons sur un personnage qu'au moins lui a eu le courage de mettre dans ses histoires. Je veux dire, c'est facile aujourd'hui d'avoir raison, mais on est 30 ans après. Donc on va faire le procès à Marcel Marlier d'avoir mis une petite fille qui s'appelait Cacao et qui portait des valises. Je trouve que c'est s'en tirer un peu à bon compte. Quand vous imaginez qu'un album... de Martine se vend à 1 million d'exemplaires, y a bien des gens de l'Académie française qui voudraient pouvoir en vendre autant, quoi. Donc je veux dire, évidemment, c'est comme Coluche disait, avec le succès qu'on a, tu voudrais pas qu'en plus ils nous aiment, quoi. Hein. Et ce qui fait le succès que tant de gens lui ont envie de Marcel Marlier, c'est justement le fait que c'est un art qui s'adresse à toutes les catégories sociales. Maintenant, ils ont une licence de vente pour 1 million d'albums en Chine aussi, ça marche aussi en Chine. Alors c'est assez extraordinaire quand même. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien ici en Tchécoslovaquie qu'en Chine ?
C'est-à-dire, ce n'est pas la vie, et en même temps, ça a quelque chose de fascinant, parce que ce serait la vie. Et en même temps, c'est de l'anti-vie, parce que tout ça est extrêmement figé, quand même.
Elisabeth Bramy, psychologue et auteur jeunesse. Et
c'est de la Barbie pour les petits. Avec d'ailleurs cet art de Marcel Marlier qui fait des illustrations extrêmement réalistes, on a presque des impressions de relief. On a presque l'impression que c'est une poupée qu'on promène dans un décor. Et ça, ce côté décor presque plastique qui fascine. C'est quelque chose comme ça qu'on fait quand on promène une poupée dans une boîte à chaussures qu'on a aménagée. Alors là, c'est un peu mieux aménagé et c'est typiquement, c'est daté aussi, mais ça a ce côté abstrait. Abstrait tout en étant très réel. Ce qui est intéressant, c'est que l'enfant n'a pas toujours besoin d'être complètement dérangé par sa lecture. On n'est pas toujours obligé d'assister à une Sophie en train de couper un poisson rouge en rondelles. On n'est pas toujours obligé de tomber dans un général d'Ourakine sadique, même si après ça va fasciner. Il y a sans doute des moments, peut-être dans cette fameuse période de latence, on ne sait pas si elle existe vraiment, où le monde devrait pouvoir être soft, pour parler anglais, sans problème, d'ailleurs sans présence de parents, parce que tout fonctionne sans que les parents y soient, comme si on était, si, comme quand on est petit, on dit si j'étais, si c'était possible. Et rien n'est possible, et rien n'existe de tout ça, mais pendant la lecture, pendant les 10-15 minutes, on se prend à rêver que peut-être le monde pourrait être paisible, calme, même si c'est complètement bidon.
Et alors, il y a d'autres images aussi, parce que par exemple, là, voilà, là, il y a une image d'intérieur, c'est dans le même, dans Martine, à la maison. Et alors moi, je trouve que c'est un intérieur qui est assez inquiétant parce qu'il a quelque chose de vide, d'un peu mort.
Mais il y a eu un moment dans les années 60 où certains intérieurs avaient ce côté dépouillé, glacé, l'arrivée du plastique, l'arrivée des matériaux formica, etc. Je crois que c'est pas complètement coupé de la réalité de l'époque. C'est vrai que les étagères sont vides là, mais après tout, on est dans ce côté lisse. Il est quelque part, c'est un cadre, c'est un peu obsessionnel. Déjà dans la recherche de la perfection, il y a quelque chose d'obsessionnel. Et comme toute obsession, elle dévie sur la propreté. D'ailleurs, très souvent, ils ont des balais, la question de la saleté, de nettoyer, de ranger est permanente. Elle a jamais un cheveu qui dépasse, cette petite. Il y a jamais une croûte sur le genou du gars. Ils sont jamais tombés, ils sont jamais fait mal, ils ont jamais une crotte de nez. C'est impossible. C'est un univers propre, désinfecté.
Pendant ce temps, les garçons se sont réunis autour du grand bassin. Regarde mon nouveau voilier et ma vedette à moteur. Elle traverse le bassin sans jamais s'arrêter. Maman m'a acheté ce joli croiseur. Tu sais, je serai marin, c'est décidé depuis un quart d'heure. Et après, je serai capitaine de sous-marin.
Parce qu'il y en a par exemple qui disent, voilà, j'ai entendu ça. Et elle est là, il n'y a pas un poil qui bouge, elle a ses cheveux. C'est pas vrai, vous avez des dessins là où elle est ébouriffée. Mais bon, ils ont comme ça une idée préconçue. Et il y en a beaucoup qui n'ont même jamais lu.
D'ailleurs, si jamais elle remet les pieds ici, je m'en vais.
Parce que vous aviez sorti votre putain de matelas devant la porte.
Je retourne au Grand-Duché de Luxembourg.
J'ai dû aller coucher au Hilton avec lui.
Là, tu es tranquille.
30 sacs la chambre à mon âge.
3 rues, des banques, des hôtels, des striptease, pas d'histoire.
Et tous ces rockers qui se faisaient monter du champagne à 3h du matin.
Tu as une petite mansarde, un resto avec des salades composées, tu as la gare à côté, c'est clair.
Stéphane Makedonski, vous êtes décorateur au cinéma. Vous avez décoré, entre autres, le dernier film d'Étienne Chatillez, Tanguy. On vous a montré certains albums de Martine. Pour vous, est-ce que le décor de Martine dit quelque chose ?
Bah écoutez, Pour moi, il dit pas grand-chose parce que c'est très descriptif et ça décrit un texte qui est descriptif. Donc on est dans une cuisine avec le petit fourneau derrière, une casserole, une tasse. Après, on va être dans la chambre avec les jouets, etc. Donc tout est un peu comme une petite dinette, quoi, avec ses petits jouets. Il y a rien n'est. Quand on fait des décors, on s'attache à tous ces détails qui sont en plus des objets utilitaires. Là, on est dans l'utilitaire, on est dans le descriptif. Bon, il peut y avoir un jouet cassé, mais il n'y aura pas d'objet délirant dans ces magazines, je pense, dans ces décors-là, quoi. Et voilà, donc le décor n'est pas très intéressant, je trouve. Enfin, il n'est pas plus intéressant que l'histoire, en tout cas.
Vous pensez qu'il y a une intention dans les dessins de Marcel Marlier, dans ces décors ?
Oh ben oui, c'est la morale de la petite famille bourgeoise. Et qui est dans la norme, je pense. Donc tous les objets vont avec, quoi. Le décor va avec, la maison est propre, il y a un aspirateur, il n'y a pas de problème d'argent, il y a des jolies plantes, il y a un petit jardinet, il y a des petits oiseaux. Pas des masses de trucs à dire, quoi.
Mais ici, par exemple, voilà, vous avez une esquisse ici, et une ici. Ils auraient dû les mettre... Voilà. Elles arrivent ici dans le couloir, hein, oui. de la sorcière. Et ici aussi dans le couloir de la sorcière. Alors dans le texte, on dit « le couloir sent mauvais ». Bon, je fais ce dessin, le couloir ne sent pas mauvais.
Non. Hein,
voilà. Il n'y a pas d'odeur dans ce couloir. Mais j'ai refait ce dessin-ci.
Et là, il sent mauvais.
Voilà, et là, il sent mauvais.
Eh oui.
Hein? Voilà. Donc tout est une affaire de composition et d'ambiance et...
Hein? En fait, vous travaillez d'après le texte, vous avez le texte avant, ou vous modifiez les dessins une fois que vous avez le texte, comment vous procédez?
On faisait parfois, certaines histoires étaient inspirées par des aventures de nos enfants. J'en parlais avec M. Delahaye, on disait, tiens, voilà ce qui nous est arrivé. Hein? Alors, par exemple, Martine et son ami le moineau.
Oui.
Nous partions en vacances, nous étions prêts, la caravane était prête. Et puis, pendant la nuit, une tempête, dans notre jardin, de grands saules, les branches étaient cassées, il y avait des nids par terre, un petit oiseau tout sans plumes, là, dans le nid, les enfants qui disaient « Oh, papa, on va pas le laisser. » Ah oui, mais on part en vacances, eh bien, on le prend avec. Voilà, on a pris ce petit oiseau avec, on l'a placé sur le frigo. C'est-à-dire c'était un frigo, mais sur le frigo au gaz. Hein. Donc au-dessus du frigo au gaz, il y a de la chaleur. Hein. Hein. Voilà notre moineau qui grandit, lui donne à manger, un bâton d'allumettes, du jaune d'œuf, etc. Et puis ce moineau, après, dans la maison, pendant 2 ans, était sur un philodendron dans mon atelier, et il venait sur mon épaule pendant que je dessinais. Et il me tirait à l'oreille, évidemment, à certains moments, parce qu'il fallait que je m'en occupe, hein, avec le bec. Et puis je partais chez Casterman avec mes dessins, avec le moineau sur
ah oui.
Oui, comme le Long John Silver, vous savez, là, avec son perroquet. Hein? Alors ce oiseau faisait chip, chip, évidemment. Et M. Robert disait, il y a un moineau ici, il y a un moineau. Évidemment, il regardait partout en l'air, et le moineau était sur l'épaule. Hein? Et alors, quand il y avait les anniversaires, évidemment... C'était gai parce que donc on invitait tous les petits cousins et on voyait les petits cousins, petites cousines avec chaque fois elles se promenaient avec le petit vélo là, avec le moineau sur la tête ou le moineau. Et ça a même eu quelques drames à certains moments parce que ce moineau était tellement habitué que il est arrivé chez une voisine qui pendait son linge, il a commencé à lui tirer à l'oreille. Mais on passait. À ce moment-là, il y avait le film d'Hitchcock, les oiseaux. Elle a commencé à crier au secours, elle a cru que c'était... Elle était impressionnée par cette affaire-là. Et malheureusement, mort assez tragiquement. Voilà qu'on mange une pomme, je dis, tiens, on l'avait appelé Fifi, c'est bête, hein, on ne l'avait pas cherché loin. Fifi, Fifi, ouais, Fifi, on ne le voit pas. Tiens, c'est curieux, d'habitude, il arrive. Et tout à coup, on s'aperçoit qu'il était... dans un fauteuil de rotin. Dans l'atelier, on avait les fauteuils de rotin avec des barreaux verticaux, hein, des rotins verticaux, comme dossier. Mmh. Et il s'était mis... Et il y avait évidemment des coussins, des grands coussins. Il s'était mis entre deux, et probablement qu'on s'était assis. On l'avait... Et il était crucifié, les comme ça. et je suis resté 2-3 jours.
Vous étiez triste?
Ben oui, c'est con, parce que... Petite bête comme ça. Mais ça... Ben enfin, pour vous dire que...
Là, ni métro, ni voiture, ni autobus. C'est un endroit merveilleux. On se croirait vraiment à la campagne. Les messieurs lisent le journal sur le banc. Les dames, en faisant tourner leurs ombrelles, bavardent. Un merle siffle dans le buisson. Le jardinier jardine. Le peintre peint. Le gazon gazonne. Le marronnier donne des marrons et le rosier des roses. Qu'est-ce qu'on entend ? C'est l'eau de la cascade qui rebondit sur les pierres.
Et alors votre Martine à la maison ? C'est vrai que le petit gars, il est dans une attitude de séducteur...
Un peu éphèbe, un peu...
Un peu éphèbe, un peu déshabillé. Le haut de la culotte est assez haut, quoi.
C'est la vrai, main dans la poche. Vrai,
très évoqué. Oui, et en même temps, on a cette image conventionnelle de la petite fille qui est passive et qui est allongée et du gars qui est conquérant, qui est debout. Ça, c'est évident. On voit bien que c'est pas une bonne femme qui a dessiné ça, quoi. Et pas à n'importe quelle époque ça a été dessiné. C'est déjà la fille, elle a les mains sous le menton et elle est en admiration et dans deux minutes elle sera en adoration devant ce jeune garçon qui montre sa cuisse. J'irai pas dire qu'il y a du sexe chez ce garçon, mais il y a sûrement quelque part de la volupté dans la façon dont on l'a mis en scène, ce petit gars, quoi. Mais quand elle est toute seule, elle est désérotisée à mort, mais d'une façon désastreuse. C'est-à-dire que la maman ne peut pas être une femme. C'est pas une femme, c'est une image de mère. Il y a très peu de sensualité, même dans Martine, petite maman, quand elle fonctionne. Voilà, elle fonctionne. Elle donne le biberon, mais il n'y a pas de séance de tripotage, de guili-guili, vraiment. Bon, alors, peut-être que le siècle a totalement changé.
Alors, toujours dans le même, il y a une autre image que je voulais vous montrer. C'est cette image de fin,
oui.
Où on dirait vraiment un couple, donc c'est frère et sœur, et il y a vraiment une espèce d'image du couple père-mère, quelque chose qui est très...
Oui, oui.
Toujours dans la... Ils singent les adultes.
Oui, il y a une façon de plaquer le monde des adultes sur le monde de l'enfance, c'est évident, et je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus pervers. C'est ça qui est embêtant. C'est pas grave, mais c'est embêtant si les enfants n'ont que ça entre les mains.
Juste qu'on s'est arrêté devant la petite culotte de Martine.
Ah ben, on l'a mis exprès.
Et ça, on vous... Enfin, voilà, on se dit...
Parce que si vous prenez toutes les photos de cette époque-là, tous les enfants sont comme ça. Hein, ils étaient habillés très, très courts comme ça, des jupes très, très courtes, ou même sans se baisser, on voyait la culotte, et c'était comme ça. Mais alors, maintenant, ils reprennent ça en disant, dans tous les albums de Martine, on voit la culotte. Bon. Après, elle a des jeans, quand c'était la mode des jeans, elle a eu des joggings, là, dans la forêt, elle a des joggings. Maintenant, on voit plus sa culotte, parce que c'est plus la mode. Donc, moi, bon, j'avais mes petites dentelles parce que je trouvais ça comique. Parce que c'est pas une culotte courte, quand même, mais c'est une culotte avec des, ben, quoi. C'est pas comme les culottes de maintenant. Et il y a des petites jambes, hein.
Et justement, Martine, vous l'imaginez dans quel décor?
Je l'imagine dans quoi? Je sais pas, c'est une pin-up, donc... je sais pas, dans une boîte de nuit, peut-être.
Je l'ai eu, ça, celui-là, il me rappelle quelque chose. Alors, quand elle est malade de quoi?
Je crois qu'elle a pris froid dans la neige.
Ouais. D'ailleurs, elle fait mamie, hein, parce qu'avec son truc à dentelle sur les épaules, dans son lit, comme une petite vieille qu'on vient visiter, c'est un peu étonnant. Mais oui, mais elle est très vieille, hein, comme personnage. C'est une fausse petite fille, c'est une adulte rêvée.
Mais je crois que le personnage de Martine, c'est un peu ses contradictions. C'est-à-dire, d'une part, on a une héroïne assez autonome, puisqu'il y a peu de personnages autour d'elle, et en tout cas peu d'adultes autour d'elle. Mais à côté de ça, elle est très sexuée. Elle est même hyper sexuée, avec des jupes très courtes, et sexuée, j'allais presque dire sexualisée avec cette vision sur la culotte. Autre chose, moi, qui me frappe aussi, c'est que sauf à me tromper, mais au cours de ses 50 ans, Martine n'a pas développé, semble-t-il, de projet professionnel. C'est pas une petite fille qui se projette dans un avenir de femme. Si ce n'est le seul projet qu'on peut voir se dessiner, c'est le projet de mère. Hein. Ouais. Elle ne rêve pas d'être ministre, d'être exploratrice, etc. Autre chose encore, autre piste, me semble-t-il, c'est qu'elle n'a pas besoin d'évoluer puisque sa féminité est déjà en elle. Oui. Hein. Donc là aussi, c'est quelque chose d'une vision un peu essentialiste des femmes que... Elles n'ont même pas besoin là de devenir femmes, comme disait Beauvoir. Elles le sont déjà, quoi.
Oui.
Tout est en germe.
Bon, c'est quand même pas une petite fille qui est là et qui fait tout le temps la cuisine, puisqu'elle fait de la montgolfière, elle fait du cheval, elle fait. Bon, elle est vraiment dynamique, elle est vraie. Non, vous trouvez pas? C'est sûr, on a fait une fois Martine de la cuisine, et pourquoi pas, hein?
Françoise Lévesque, donc vous êtes bibliothécaire, responsable du fonds historique de la bibliothèque L'Heure Joyeuse à Paris. Et est-ce que vous pensez que Martine, c'était une lecture qui est particulièrement sexiste ?
Ah ben complètement, oui. Oui, mais si vous voulez, ce qui est véhiculé, c'est une idée de critique qui, en fait, pour la plupart, pour en revenir à ce fameux ouvrage sur le Club des Cinq, ils les ont pas lus. Ils en ont lu un ou deux. Ils se sont forgés une idée à partir de deux exemples. Donc évidemment, si vous tombez sur les mauvais exemples, c'est fichu. Après, il faut... Bon, mais après, bien sûr, quand on recommence... non, parce qu'en fait, dans les témoignages qu'on a eus hier, en fait, c'est exactement le contraire de ce que je dis, parce que les filles qui ont lu Martine quand elles étaient jeunes, elles avaient justement cette image d'une fille aventureuse, enfin, pas autant que Caroline qui conduit son cabriolet, mais quand même qui a envie dans la vie de sortir d'un rôle qui lui est assigné dès le départ, comme c'était à l'époque pour les petites filles.
Alors pourquoi, Françoise Lévesque, à votre avis, est-ce qu'il y a autant de violences qui se déchaînent contre Martine ? Pourquoi elle est devenue un peu le bouc émissaire de la littérature enfantine ?
Non, c'est pas devenu le bouc émissaire, simplement c'est... Non, mais c'est même pire que ça, c'est ignoré, puisqu'on n'en parle pas. Autant il y a eu des études sur différents auteurs, sur Martine, il n'y a rien eu du tout, ça n'en vaut même pas la peine.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, des accusations de voyeurisme, de pédophilie? Enfin, voilà, on voit les corps le corps de Martine un peu sous tous les angles, surtout sa culotte, son entrejambe.
C'est vrai que c'est un fantasme, c'est vrai qu'on voit ses culottes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est gosse que regarder les culottes des filles? Mais je pense que c'est un peu ce qui se passe. Enfin, moi, j'ai un gamin de 7 ans, là, tous les jours, il rentre, mais il est hyper amoureux. Donc, je veux dire, la part de son amour constitue 85% de ses journées. Et je me souviens assez bien de ce que furent mes premiers émois à l'école primaire ou en maternelle. Et je suis continuellement en quête de retrouver une passion pareille. Parce que je trouve que ça prenait tellement la tête que c'était une drogue, quoi. Et donc, je trouve que... chez Martine, c'est pas exprimé. Donc moi, je pense que ça, c'est un reproche que je ferais, c'est qu'elle ne vit jamais d'histoire d'amour. Mais à part ça, bon, le fait qu'il y a une sexualité comme ça qui soit contenue dans le dessin, même si Marcel Marlier s'en défend, parce que je pense pas que lui, il s'en défend, il voit pas, il dit les gosses sont comme ça, ils n'ont pas de retenue par rapport à ça. Par contre, mon gosse, enfin moi, j'ai retrouvé ça parce que maintenant j'ai un enfant, je m'en souvenais pas quand c'était pour moi ou je l'ai lu dans certains ouvrages, mais il a continuellement sa main en train de se tripoter. Je veux dire, c'est un état de l'enfance. Donc qu'on ne veuille pas nier la sexualité des enfants. Alors moi je comprends pas, parce que par moment on nous dit qu'il ne faut pas la nier, et puis quand ça apparaît tout à coup dans un bouquin, baf, on lui fait un procès en sorcellerie comme ça. Donc je trouve que c'est bien difficile dans ces sociétés aujourd'hui d'être juste au goût du jour, quoi. On est toujours trop ou trop peu finalement.
Comment vous expliquez-vous l'envie qu'on a de pervertir Martine une fois adulte? On en a envie quand même.
Mais quand vous dites pervertir, moi j'aime bien le terme, parce qu'en fait qu'est-ce qui est pervers, c'est la chose elle-même ou c'est le regard qu'on porte dessus? C'est peut-être aussi le désir de certains de vouloir absolument toujours mettre des justifications. Enfin, il y a cette tentation tout le temps de la démarche psychanalytique de vouloir tout justifier, expliquer. Donc je trouve que ce sont les dangers de la projection.
Je peux pas toujours faire Martine à vélo. Hein?
Oui, vous voudriez après que... Elle reste avec la figure tuméfiée pour le livre suivant.
Elle correspond à la vision que les adultes ont des enfants. Et dans les 50, 60, c'est la petite fille bien proprette, bien gentille.
Sophie Flamand.
Progressivement, elle s'affranchit pour arriver à des bouquins dans les années 90, 90, où on a une petite fille bah, qui commet un vol chez un antiquaire, qui rentre par effraction chez sa voisine. Et bon, peu à peu, l'univers s'élargit de la même manière que le monde évolue et que la société évolue. À ce niveau-là, je crois que c'est un témoignage sur les 50 dernières années écoulées.
1969.
Remarquable,
Martine,
vraiment remarquable.
Fête son anniversaire. 1970. Martine embellit son jardin.
Une des critiques qu'on lui fait, c'est qu'elle réussit tout. Donc Martine, là, j'ai devant moi, Martine fait du cheval, Martine petit rat d'opéra, Martine fait du camping. Bon, enfin, bon, ce sont des loisirs assez modestes. Hein. Toutes les petites filles ont fait de la danse, tous les petits enfants ont une petite tente à monter dans leur jardin. Et dans nos milieux ruraux ici, ils montent tous sur un cheval à un moment donné. Et c'est pour ça que je pense qu'autant d'enfants s'identifient ou peuvent s'identifier. Si vous prenez tous les Martines, le contexte principal de Martine, c'est la nature. Donc elle est entre un érable, un chêne, un cerf, un hérisson et un chat. Donc ça, c'est intemporel. Et donc c'est pour ça qu'on se rend compte qu'elle n'a pas énormément vieilli. Enfin, je sais que les exégètes s'amusent à comparer les cuisines en formica des années 60 avec celles d'aujourd'hui. Mais bon, c'est vraiment un plaisir de spécialiste. Mais en fait, Martine, je pense, est plus que jamais à la mode parce que c'est un personnage qui est dans la nature. Mais pas de n'importe quelle manière. Enfin, Marcel est en train de dessiner un bouquin dans le parc que je gère pour le moment. Il y a deux mois, il est venu avec la première planche du dessin qu'il avait réalisé pour notre livre, là. Bah, il me dit, tu vois, j'ai eu des difficultés à faire tel arbre, et puis je l'ai retourné trois fois dans l'autre sens, je l'ai dessiné à contre-jour à la lumière, mais les feuilles ne m'apparaissaient pas justes. J'ai l'impression de relire Inc quand il explique pourquoi il ajoute une côte à la baigneuse de Valpinçon, et pourquoi expliquer après 40 ans pourquoi il a toujours voulu repeindre ce dos de la baigneuse. Donc je pense que tout ça, subconsciemment, passe chez le lecteur, qui voit la qualité des feuillages, qui voit la précision du trait, et que tout ça est bienfaisant comme une heure passer dans la forêt, et que c'est ça qu'on va retrouver dans Martine.
Vous réagissez comment, vous, à toutes ces attaques? Il y en a quand même.
Ça fait mal, hein, au début, quand on disait qu'on était raciste, parce qu'il avait appelé la petite poupée noire cacao. Et puis le plus fort, c'est que, donc, ils doivent passer une rivière, là, sur un arbre, et moi, je mets cacao devant avec les valises. Ça c'était la bêtise. Donc c'était pour montrer que les Noirs étaient bons à être domestiques, esclaves, serviteurs, etc. Alors du coup on fait des thèses à l'université là-dessus, on fait des trucs. Mais c'est dingue parfois.
Pour lui faire une surprise, les parents de Martine sont venus la chercher au parc. Mais avant de rentrer à la maison, tout le monde est allé se reposer sous les parasols à la terrasse de la pâtisserie, pour y déguster des jus de fruits et de la crème à la vanille. Ainsi s'achève l'après-midi de Martine au parc. Un après-midi merveilleux.
Et vous pensez, Françoise Lévesque, qu'il faut vraiment avoir un jugement aussi sévère sur Martine ou sur le Club des Cinq, que c'est vraiment une littérature qui n'a aucun intérêt ou qui est néfaste, nocive?
Non, pas du tout, puisqu'en fait... Non, pas du tout. Pas du tout, puisque chacun se forge son goût de lecture, son imaginaire, à partir de tout cet ensemble. Enfin, je veux dire, c'est un tout. Hein. Et au contraire, ça développe le sens critique. Les enfants, ils trouvent, parce qu'en fait, la sélection, elle est faite par des adultes, et donc le regard d'enfant, on ne l'a plus. Et les enfants, ils trouvent quelque chose qu'ils ne peuvent pas exprimer. Ils peuvent l'exprimer quand ils sont devenus adultes, mais au départ, s'ils aiment ça, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. De toute façon, l'idéologie, elle est surtout forte à une époque. Hein. Et après, l'enfant, bon, il se fait ses repères, enfin, il se crée ses repères au fur et à mesure de sa vie. Hein. À une époque, moi, j'ai eu accès à la bibliothèque de mes grands-parents, et donc, fin 19e, c'était une littérature extrêmement colonialiste, et enfin, avec que des thèmes comme ça, et moi, j'ai pas été orientée dans ce sens-là. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai lu ça que, Au contraire, maintenant, c'est une richesse, puisqu'en fait, ça explique beaucoup de choses. On se dit, ah, on peut être telle et telle, enfin, avoir telle et telle idée, parce qu'on a lu telle et telle chose. Mais après, on a quand même une évolution, heureusement. Sinon, ça serait dramatique.
Les livres restent plus longtemps. Notre inconscience que l'on trouve dans les textes proposés aux enfants des années 60 est extraordinaire. Enfin, les tziganes sont tous voleurs de poules, les Espagnols sont paresseux. Enfin, c'est vraiment. Donc, ce sont des témoins plus gênants. Mais quand on prend les journaux pour enfants à la même époque, le cinéma pour enfants à la même époque, le chemin parcouru est tout aussi immense. Donc il ne faut pas que la longévité d'un illustrateur se retourne contre lui en tant qu'auteur. Et c'est là que je trouve qu'il est important de séparer ce travail d'illustrateur de ce travail d'auteur.
En fait, moi, je n'ai pas lu les Martines quand j'étais jeune. Pourtant, c'était tout à fait ma génération, puisque le premier, si je ne me trompe, est paru en 1954. Et c'était pourtant le moment où je commençais à lire ce genre d'album, mais je n'en ai pas eu. Mais donc, Martine, moi, je ne l'ai pas lu. Je l'ai rencontré beaucoup plus tard professionnellement, hein, puisqu'en fait, après, s'est posé la question de savoir si on achetait des Martines ou pas. Donc, c'est une approche intellectuelle.
Et alors, professionnellement, qu'est-ce que vous pensez de Martine? Est-ce que vous aimez Martine?
Moi, je n'ai accès qu'aux anciens, en fait, qu'on récupère pour la bibliothèque, puisque c'est une bibliothèque un petit peu particulière, qui a un fonds de conservation de littérature pour la jeunesse, donc on conserve les livres anciens. Donc, on a récupéré les albums de Martine uniquement par don. On n'a pas poussé jusqu'à en acheter, mais je pense que les gens qui les ont eus les gardent très précieusement. C'est resté vraiment un souvenir extrêmement vif dans la mémoire des petites filles de toutes les époques, hein.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas acheté Martine? Pourquoi Martine est malvenue dans les bibliothèques?
La bibliothèque a une vocation très, très particulière, hein, d'offrir aux enfants des lectures, alors de qualité, on peut dire entre guillemets, mais de faire une sélection, et les bibliothécaires y tiennent beaucoup. Hein. Et elles ont de tout temps jugé que ce qu'achètent les enfants, qu'on trouve partout, qui est un petit peu populaire, bon, elles n'ont pas acheté ce genre de choses, puisqu'en fait c'est accessible à tout le monde, donc elles... Elle préfère acheter, justement, essayer d'éduquer les enfants. Il y a toujours ce souci d'une mission d'éducation par rapport à leur jeune lectorat. Donc, à l'époque, on dit toujours, elle n'achetait pas Zazie dans le métro, parce que c'était un vocabulaire pas assez châtié. Elle n'achetait pas le Club des Cinq, parce que ça leur semblait... On peut lire quelque chose, d'ailleurs, suite à la question, il y a eu une enquête qui a été menée auprès des critiques d'une certaine époque. Quand ils parlent du Club des Cinq, à la question « Que pensez-vous de l'œuvre d'Enid Blyton ?» et en particulier du Club des Cinq, Marc Soriano, qui était quand même quelqu'un qui était professeur à l'université de Paris 7, était capable de répondre à cette question en disant que le Club des Cinq n'était pas à mettre entre toutes les mains, parce que c'était un vocabulaire abusivement restreint, des personnages stéréotypés, suspense artificiel et répétitif, et cette série cyniquement commerciale semble orienter l'enfant vers la lecture, mais en fait l'habitue à un plaisir immédiat qui risque de décourager chez lui le léger temporaire effort que suppose la lecture véritable. Donc on peut raccrocher ça à Martine, hein. Je veux dire, la critique était la même pour Martine, une petite fille stéréotypée, qui était un plaisir immédiat, facile et auquel les enfants se raccrochaient et qui n'ouvrait absolument pas sur l'envie de lire autre chose, ce qui est totalement faux, puisque en fait le Club des Cinq a servi, on le sait après, mais sur le moment on n'a pas suffisamment de recul, et donc Martine et le Club des Cinq ont été une accroche, hein, et donc elle n'avait pas les Clubs des Cinq et les bibliothécaires ne les achetaient pas. En tout cas, pour la bibliothèque de l'Heure Joyeuse en particulier, on devrait en commander. En tout cas, pour le verser dans le fonds de conservation, pour avoir des exemples de ce qu'est Martine, et même aujourd'hui.
Et du coup, en fait, aujourd'hui, les bibliothèques ne sont pas représentatives, finalement, de ce qu'était la littérature, la littérature enfantine des années 50.
Représentative, si, quand même, mais pour une certaine catégorie, une certaine, peut-être, classe sociale.
Et pourquoi, à votre avis, Françoise Lévesque, est-ce que Martine plaît tellement aux parents?
Ça, c'est le phénomène du classique, même si les bibliothécaires vont sauter au plafond quand je parle de classique en parlant de Martine, mais bon, pour eux, c'est pas ça du tout. C'est ce qui se passe pour la comtesse de Ségur, pour Jules Verne, etc. C'est que les parents achètent ce qu'ils connaissent. Et Martine, qui a été traduit dans toutes les langues et diffusée dans le monde entier, on va se rendre compte que ça va émerger comme patrimoine commun. Et ça, c'est très important. J'ai perdu.
Si on s'éloigne un peu de l'auteur et du personnage, on retrouve l'histoire de l'économie du livre. qui est très très importante dans cette période-là. Donc les premiers titres sortent en 1954. On est surtout sur un seul mode de distribution du livre, puisque à l'époque, si on voulait un livre, on allait dans une librairie. Il n'y avait pas tellement d'autres solutions. Il y avait à peine la lecture publique à cette époque-là. Aujourd'hui, en 2003, j'ai regardé les chiffres juste avant de venir. Sur 4 livres, il y en a un qui est acheté en librairie, un qui est acheté en hypermarché et un qui est acheté dans ce qu'on appelle les grandes surfaces spécialisées que sont Virgin, la FNAC, etc. Et je trouve que tout ce qui se passe aujourd'hui en littérature de jeunesse est imprégné de cette séparation des genres où on a des livres grand public, au sens très péjoratif du terme, à regret ouais. d'ailleurs, hein, parce que je trouve que c'est un échec formidable de la révolution des livres pour la jeunesse. Et puis d'un autre côté, la librairie qui fait des livres tout à fait comme il faut. Je crois quand même que derrière tout ça, quoi qu'on dise de Martine, il y a un grand illustrateur qui a mené un sillon, un seul sillon. Il a mis toute sa vie dans la création de ce personnage-là. Sa vie, c'est ça, et ça, c'est éminemment respectable. C'est un héros de répétition aussi, c'est le principe de la série, puisque les enfants, quand ils sont petits, on les connaît tous par cœur, ils ont envie de lire 32 fois le même livre, et puis après, quand ils sont plus grands, un petit peu plus grands, ils ont la possibilité, finalement, de retrouver le même livre, mais dans des histoires différentes, et c'est un petit peu ça. Mais c'est assez proche de ce que va être ensuite, quand ils seront plus grands, la lecture de la bande dessinée.
Je crois qu'on veut à l'heure actuelle être toujours dans le pragmatisme, on veut jouer utile, il n'est plus question de jouer avec des cailloux par terre, hein. Il faut faire des jeux créatifs, constructifs, psychomachins. Je crois qu'on veut lire utile, et encore une fois ça a sa place, mais que principalement les grandes personnes, les parents en tête de liste, offrent à leurs enfants des livres utiles, des livres qui apprennent des choses, et qu'on ne laisse plus vraiment de place pour cette littérature futile, c'est exact, mais on pourrait dire aussi qu'elle est simplement récréative, quoi.
À 10h, Michel et Bernard jouent aux billes dans la cour de récréation. Une bille de verre coûte cher, dit Bernard. Il ne faut pas les perdre. J'en ai acheté 5 hier. Moi, je préfère la verte avec du rouge au milieu. Viens danser à la corde tout près du banc, dit Martine à Marie-Claire. Le soir, l'école est finie. Martine retourne à la maison. Le chat, qui ronronne au pied du petit mur, lui dit « Bonsoir, Martine. Combien font 2 et 2 ?»
Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis gris.
Et le vôtre, Madame Marlier, votre Martine préférée?
Par exemple, Martine en bateau, Martine en avion, ça, ce sont des que j'aime pas beaucoup, ouais. Que j'aimerais le mieux. Je sais pas. Je crois que je les vois trop, je les connais trop, et je le vois trop travailler longtemps là-dessus pour arriver quand même à les apprécier. Moi, au décès de Monsieur Delahaye, j'aurais aimé qu'il termine. Qui s'arrête aussi, voilà. Et qu'il fasse tout à fait autre chose.
Et vous l'aimez bien, vous, Martine?
Oui, évidemment, ça fait presque 50 ans que je vis avec. Donc, je dis souvent qu'il a, en 45 ans de mariage et 2-3 ans de fiançailles, il a vécu plus avec Martine qu'avec moi. Donc, on est 24 heures sur 24 ensemble. Et,
avec Martine.
Mais avec Martine.
Mais Martine, elle vous fait vivre, non?
Ben oui, hein, quand même. Hein. Oui, hein. Une brave petite fille. Elle est bien brave. Ouais.
Vous avez déjà vu un jardin dessiné par Marlier. Vous êtes dans le jardin, hein, vous. Le soleil dessiné par Marlier, vous bronzez, hein, c'est... Il y a une vie. L'univers de Marcel Marlier, c'est certainement boire du rêve. Et c'est cet univers-là qui me plaît.
Juste on contemple.
Oui, mais ça vous fait ressentir des choses. Hein. Non ? Vous ne vibrez pas, vous, quand vous voyez les dessins que vous avez là à l'intérieur ?
Si, si, je vibre.
Oui ? Non ?
Si ça continue, je vais me défendre. On va aller au restaurant. Jacqueline fera un chèque.
Ce ne sera peut-être pas un progrès pour la science, mais au moins j'aurai des chances de rester en vie.
Ça n'a aucune importance. N'oubliez pas d'éteindre sous les confitures et de prendre les cachets. Et puis, écoutez, tout va bien.
Martine à la radio. Marie-Bonne Abodidier, Anne Fleury, Perrine Kervois. Avec Bruno Belvaux, Sophie Bissante, Elisabeth Bramy, Sylvie Cromer, Marie Lalouette, Françoise Lévesque, Sabine Meida, Stéphane Makedonski et Marcel Marlier.
Sophie Flamand, commissaire de l'exposition des dessins de Marcel Marlier à Bruxelles. Merci à Frédéric Lemarchand, texte lu par André Falcon, Hélène Leroux, bruitage Sophie Bissante, équipe technique Jean-Marie Charon, Jean-Louis Deloncle, Bernard Laniel, Michel Mestre, Anne-Sophie Papillon, mixage Bruno Martin.
Papa, aime maman, maman, aime papa. Papa, aime maman, maman, aime papa.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 juin 2003. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
في حمايدك